Très bien, donc nous sommes arrivés le vendredi saint, qui est peut-être le plus grand jour de l'année. Bien sûr, Noël, Pâques, bien sûr, mais le vendredi saint, ben, c'est le jour où notre Seigneur a réparé tous les péchés de l'humanité et a obtenu notre salut, et a offert ce sacrifice qui domine toute l'histoire du monde. On peut dire que l'histoire du monde, tout converge vers le calvaire, et tout part du calvaire, et c'est la croix qui divise l'humanité en deux, en fait. Voilà. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu la cérémonie de ce soir. Il y a quatre parties. D'abord, il y a des lectures, qui se termineront par le récit le chant de la Passion selon saint Jean. Ensuite, des oraisons solennelles. Ensuite, l'adoration de la croix, et enfin, la communion. Alors, tout d'abord, les lectures, nous avons deux lectures, une lecture du prophète Osée, d'abord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là je me sers d'un livre qui date de 1921. Bon, il y a eu la réforme de la semaine sainte de Pie XII, mais ça n'a quasiment rien changé. Et c'est surtout changé les horaires, ce qui est beaucoup mieux, parce qu'avant, toutes les cérémonies avaient lieu le matin, les églises étaient désertes parce que les gens travaillent, ils ne pouvaient pas venir. Bon, il y a eu des petits changements, mais enfin, en tout cas, pour nous, c'est exactement la même chose. Et même, là, nous avons eu la photocopie d'un missel de 1484, et une photocopie. Et alors, ça concerne la cérémonie de l'adoration de la croix du vendredi saint, dans le rite dominicain, missel dominicain de 1484, voilà, photocopie. C'est exactement la même cérémonie que nous allons faire ce soir, sans rien changer. Et elle n'a pas été inventée en 1484. L'adoration de la croix, c'est au moins 7e siècle, donc les 600 et quelques. Rien n'a changé. C'est magnifique. Il faut bien penser que l'unité de l'Église, c'est pas seulement une unité qui doit être de foi, de sacrement, de hiérarchie dans le monde entier aujourd'hui. C'est aussi une unité dans le temps. L'Église est une dans le temps. Et c'est magnifique de prier, d'avoir les mêmes cérémonies qui ont eu lieu pendant des siècles et qui ont eu lieu dans cette église autrefois quand il y avait les moines, avant la Révolution, pendant plusieurs siècles ici. Bon. Tandis que, avec la réforme de Vatican II, ben c'est une révolution. Une révolution totale. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Bon. Alors d'abord des lectures. D'abord le prophète Osée. Voilà, voici ce que dit le Seigneur. Un matin, au milieu de leur souffrance, ils se retourneront vers moi. Venez, diront-ils, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a mis en captivité. Il nous sauvera. Là, c'est l'allusion, là, les Hébreux qui ont emmené en captivité à Babylone et à cause de leurs péchés. C'est lui qui nous a frappés. Il nous guérira. Voilà. Il vient penser d'ailleurs que toutes les guerres, les tremblements de terre, etc. et tout, c'est toujours le bon Dieu le permet en punition du péché, hein, et pour que les hommes reviennent. Voilà. La Sainte Vierge l'a bien dit. La Deuxième Guerre mondiale, c'était Dieu va punir le monde de ses péchés. Voilà. Alors, c'est pas. En même temps, c'est un châtiment d'un père, c'est pour qu'on revienne vers lui. Voilà. Que méritons-nous aujourd'hui? Bon. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le troisième jour, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Oui, c'est une annonce de la résurrection de notre Seigneur. Sa venue vers nous sera comme une aurore, comme une pluie d'automne et de printemps. Voilà. Donc, ce sont la première lecture, et bien, ce sont les Juifs qui sont accablés par les douleurs de la captivité. Voilà, ils étaient à Babylone. Et disant, nous avons péché, nous sommes punis, il faut implorer le pardon de Dieu. Et dès que les hommes se retournent vers Dieu, ben dans le malheur que le bon Dieu permet ou envoie à cause de leur péché, eh bien, tout de suite, le pardon arrive. Ce pardon, Dieu veut l'accorder. À condition, eh bien, que les hommes, que les hommes comprennent que Dieu exige d'être honoré en vérité. Alors ensuite, eh bien, après cette lecture, il y a un répon qui est chanté par la Scola. On chante, c'est un trait même qui est pris dans le prophète Habacuc. Seigneur, j'ai entendu ce que vous dites et j'ai tremblé, j'ai considéré vos œuvres et je suis dans l'effroi. Voilà, vous vous montrez au milieu de deux animaux. Vous êtes montré, voilà, à Noël. Plus tard, vous vous ferez connaître et quand le temps sera venu, vous paraîtrez. Quand mon âme sera dans la souffrance, vous vous souviendrez de votre miséricorde. Voilà, ensuite, il y a une lecture de l'Exode. Alors le célébrant, le diacre et le sous-diacre sont en ornement noir, c'est le deuil, voilà, puisque nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Alors c'est le livre de l'Exode, c'est le repas pascal, c'est l'agneau pascal, c'est le bon Dieu qui demande, qui a demandé dans l'Ancien Testament d'immoler un agneau. Et c'est dans la nuit où les Hébreux ont quitté l'Égypte. C'était la première Pâque. Et jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, et bien en commémoration de cette première Pâque, et bien les Hébreux ont immolé un agneau, c'était la Pâque. Mais cet agneau annonçait celui qui serait immolé pour nos péchés, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, il y aura un rappel de tout cela dans la cérémonie de la vigile pascale, parce que, eh bien, la terre d'Égypte où les Hébreux étaient en esclavage, eh bien, figure l'esclavage du péché où sont les hommes avant leur baptême. Et puis ensuite, eh bien, les Hébreux vont traverser la mer Rouge. Cette traversée de la mer Rouge, c'est la figure de notre baptême. Et ensuite, après, eh bien, ils devaient arriver à la Terre Sainte qui est l'image du ciel. Mais avant d'arriver en Terre Sainte, eh bien, il y a eu les 40 ans au désert. Voilà. Et c'est les 40 ans au désert, ben, c'est l'image de cette terre. Nous devons porter notre croix en attendant pour mériter, eh bien, notre entrée dans la Terre Sainte. Alors aujourd'hui, donc dans cette lecture de l'Exode rappelle, eh bien, l'agneau pascal qui a été immolé. Eh bien, maintenant, le nouvel agneau pascal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le chanterons à la vigile de Pâques. Ensuite, eh bien, il y a un répon. Ce sont des extraits de psaumes, des extraits de psaumes et de psaumes annonçant la passion de notre Seigneur. Voilà, quelques extraits. Seigneur, donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à son Père. Seigneur, délivrez-moi de l'homme mauvais, sauvez-moi de l'homme impie. Leurs pensées sont pleines de méchanceté. Toute la journée, ils me livrent bataille. Ils aiguisent leur langue comme une langue de serpent. Le venin de l'aspic est sur leurs lèvres. Gardez-moi, Seigneur, de la main du pécheur. Sauvez-moi des impies. Bon. Ne m'abandonnez pas. Leurs mauvaises intentions retomberont sur eux. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, a lieu le chant de la Passion. La Passion selon Saint Jean. Et Saint Jean aujourd'hui. Donc nous avons eu toutes les passions. Le dimanche des Rameaux, c'était la Passion selon Saint Matthieu. Ensuite, le mardi saint, Saint Marc. Mercredi saint, Saint Luc. Et aujourd'hui, Saint Jean. Nous aurons fait tous les. L'Église nous aura fait chanter, eh bien, tous les récits de la Passion. La Passion de Saint Jean. Saint Jean, c'est la Passion la plus contemplative, et c'est lui qui a vu la. Qui nous raconte, eh bien, le centurion qui a percé de sa lance le cœur de Jésus. Ensuite, donc après ces lectures, hein, lecture du prophète Osée, voilà, nous rappelant que tous les malheurs dans lesquels nous sommes, c'est à cause de nos péchés, il faut nous convertir. Ensuite, lecture de l'Exode, l'agneau pascal, voilà, c'est lui qui va réparer, qui a réparé maintenant, hein, tous nos péchés. Voilà. Ensuite, la Passion selon Saint Jean, nous contemplons, eh bien, voilà, comment nous avons été sauvés. Voilà. Et ça, cette contemplation de la Passion et toute cette semaine sainte, la grâce à demander, vraiment, c'est un plus grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ en voyant tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est lui qui a tout pris sur ses épaules à cause de nous. Et bien penser que. Et ça doit nous donner une grande haine du péché. Alors nous avons nos faiblesses, bien entendu, mais enfin il y a les sacrements, la confession, la communion. Mais on devrait penser à chaque fois en se disant non, ça suffit, il a assez souffert, il ne faut pas que j'en rajoute. Il faut bien penser que c'est extraordinaire dans notre religion, hein, mais que notre Seigneur, le jeudi saint au soir, a été écrasé, nous le savons, par les péchés de toute l'humanité, depuis le premier péché d'Adam jusqu'à la fin du monde. Et notre Seigneur étant Dieu, il a embrassé toutes les époques et il nous a vus aujourd'hui. Donc, au jardin des Oliviers, il a souffert de nos péchés. Et on peut très bien se dire, non, ça suffit, je l'ai déjà fait assez souffrir. Pensez que par nos péchés, eh bien, nous sommes avec les bourreaux en train d'enfoncer les clous dans ses mains. Nous appuyons encore plus la couronne d'épines parce qu'elle n'est pas encore assez appuyée. Nous frappons encore plus fort la flagellation par nos péchés. Parce que c'est pas seulement le jeudi saint au soir, mais c'est tout le vendredi aussi. Il nous voyait, il voyait tout. Ah, et on lui a fait mal. Alors ça doit nous donner un grand amour de notre Seigneur, une grande haine du péché. Ne pas nous décourager, nous désespérer, bien sûr, puisqu'il a tout réparé. Voilà. Et en même temps, essayer de faire tous nos efforts pour nous convertir davantage. Les auteurs spirituels disent qu'il y a plusieurs conversions dans la vie. Il y a la grande conversion de quelqu'un qui vient du paganisme ou qui n'a pas été baptisé et qui va être baptisé. Il y aura un baptême d'adulte cette année, une jeune fille pendant la vigile pascale qui va être baptisée. Bon, je n'ai pas forcément beaucoup de péchés avant, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, elle n'avait pas été baptisée, voilà. Et puis, donc la première conversion, c'est celle-là. Mais après, dans notre vie, il y a plusieurs conversions. Se convertir, se tourner toujours plus vers notre Seigneur Jésus-Christ. La loi de la vie chrétienne, c'est une loi de progression. C'est très important. Pas seulement, j'accomplis ceci, cela tous les jours, bon, très bien. Non, toujours progression. Pour mieux aimer notre Seigneur. Et donc la grâce de mieux l'aimer étant donné tout ce qu'il a fait pour nous, et puis en même temps de combattre le péché. Et puis aimer notre Seigneur, c'est pas nécessairement une question de sentiment, c'est surtout faire sa volonté. La vertu de charité, vertu théologale de charité, c'est une vertu qui vient sur notre volonté pour l'unir à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc aimer notre Seigneur, c'est avoir une volonté toujours plus étroitement unie à la volonté de notre Seigneur du moment présent, voilà, toutes nos journées. Voilà. Bon, ben demandons, on n'est pas parfait, mais on doit tendre à la perfection. Voilà. Alors, après le chant de la Passion, ont lieu les grandes oraisons solennelles. Alors, c'est magnifique parce que, si vous voulez, c'est. Voilà. D'ailleurs, après, oui, donc là, notre Seigneur est sur sa croix, le sang coule, et nous en profitons pour prier pour toutes les grandes intentions. Donc l'Église est prie pour toutes ses intentions, toutes ses intentions. On en profite, voilà, pour que ce sang de notre Seigneur, eh bien, obtienne les grâces demandées. Donc le sang coule abondamment. Donc nous prions pour la Sainte Église, pour le souverain pontife, pour tous les ordres du clergé, voilà, les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les acolytes, les exorcistes, les lecteurs, les portiers, puis aussi les confesseurs, les vierges, les veuves, c'était des il y avait des veuves, bon, il y a des veuves, il y aura toujours évidemment, bien sûr, sur terre, des vierges, etc., mais il y avait comme une consécration, elles faisaient partie, elles avaient une place spéciale dans l'assemblée des fidèles. Pour les chefs d'État, on n'oublie personne, mais pour les chefs d'État, pour ceux qui vont être baptisés, toujours les baptêmes dans la vigile de Pâques, pour tous les besoins des fidèles. Et puis après, l'Église, elle se tourne aussi pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Hein. Donc pour les hérétiques, les schismatiques, pour la conversion des Juifs, pour la conversion des infidèles, donc les païens. Voilà. Alors nous prions pour toutes ces intentions, parce qu'on sait que c'est un jour, le vendredi saint, où nous sommes plus facilement, davantage exaucés qu'un autre jour. Alors, je vous montre quand même, parce que vous n'allez pas aller dans une paroisse pour la cérémonie du Vendredi Saint, je ne pense pas. Mais enfin, la liturgie actuelle, la réforme de Paul VI, c'est une, voilà, très marquée, a été faite pour l'œcuménisme, pour l'œcuménisme. Et alors, bien entendu, ces oraisons en particulier ont été changées, c'est plus les mêmes. Alors, au lieu de prier pour, évidemment, les hérétiques et les schismatiques, c'est offensant, on ne peut pas dire un mot pareil. Voilà. Donc, c'était prions pour les hérétiques et les schismatiques. Alors, on ne les méprise pas, on veut leur salut. Afin que Dieu notre Seigneur les arrache à toutes leurs erreurs et daigne les ramener à notre Sainte Mère, l'Église catholique. Et puis après, la prière, Dieu éternel et tout-puissant, qui sauvait tous les hommes et voulut que nul ne se perde. On veut leur bien. Tournez-nous vers les âmes trompées par les ruses du démon. C'est le démon qui est à l'origine de toutes les fausses religions, hein, et ses hérésies, etc. Afin que, déposant la perversité de l'hérésie, les cœurs égarés se repentent et fassent retour à l'unité de votre vérité. Voilà, c'est le langage catholique. Alors voilà, donc maintenant, ces prières pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Voilà, c'est très bien, tout le monde est gentil, on s'embrasse. Demandons au Seigneur, notre Dieu, de les rassembler, de les garder dans l'unité de son Église. Bon, oui. Voilà, alors aussi, alors, hein, pour les juifs, voilà, alors, prions pour les juifs, afin que Dieu, notre Seigneur, ôte le voile de leur cœur. Hein, ils ont comme un voile. C'est triste, c'est triste, on voudrait leur salut. Surtout tout ce que le bon Dieu a fait pour eux. Voilà, ils ont été le peuple choisi pour préparer l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis ils restent en rade. Alors, Dieu éternel et tout-puissant, ne rejetez pas non plus les Juifs de votre miséricorde. Exaucez les prières que nous vous adressons pour ce peuple aveuglé. Donnez-leur de connaître la lumière de votre vérité qui est le Christ, afin qu'ils soient arrachés à leurs ténèbres. Ils sont dans les ténèbres, voilà, c'est ça. Alors maintenant, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Mais enfin, c'est pour vous montrer quand même, il y a un abîme, hein, qui nous sépare. Hein, c'est terrible, hein, mais c'est vraiment... Et puis les gens se convertissent pas, parce que ça les encourage. Tout cet œcuménisme encourage les gens dans leurs erreurs. Ils y restent. C'est contre la charité. Bon. Enfin, voilà. Alors après, donc, ce sont les oraisons solennelles. Après les lectures, les oraisons solennelles. Ensuite, l'adoration de la croix. J'ai peut-être des choses à dire là-dessus. Hop. Oui, voilà, donc c'est, je dis, à propos des oraisons solennelles, voilà, maintenant nous devons nous transporter en esprit au calvaire où la passion nous a conduits. Le Christ est sur sa croix, agonisant dans l'effroi des ténèbres, et ce silence de mort plane douloureusement autour de lui. Tout se tait, et devant le Sauveur expirant, le prêtre seul parle. Ce qu'il chante, il faut l'écouter avec piété, les yeux fixés sur Jésus crucifié. C'est sa prière à lui, Jésus, sa grande prière, que le prêtre chante. Voilà, parce qu'en fait, toutes ces oraisons qu'on fait pour toutes ces intentions, c'était aussi la prière de notre Seigneur qui a prié pour son Église, pour les besoins des fidèles, pour l'Église qu'il allait fonder. Et puis, comme il englobait tous les siècles, il voyait bien aussi les hérésies, les tout ça. Ça a été une de ses douleurs, notre Seigneur, de voir que son peuple ne le suivait pas et le crucifiait. C'est sa prière à lui, Jésus, sa grande prière que le prêtre chante. Sa prière pour son Église, pour ses ministres, pour toutes les misères de la terre. Personne n'est oublié, pas même les Juifs, ses bourreaux. C'est sa prière par son sang qu'il offre au Père, souverain Seigneur, pour le salut du monde. Elle est tragique à entendre pour qui sait comprendre. Voilà. Et bien sûr, on se plaît, on fléchit le genou. Ensuite a lieu la cérémonie de l'adoration de la croix. Donc tout cela, je vous dis, ce sont des choses qui existent depuis des siècles. Alors le prêtre dépose la chasuble noire et alors c'est deux prêtres en aube avec l'étole et le manipule donc, qui montent à l'autel, qui prennent la croix qui est encore voilée de violet. Enfin chez nous c'est comme ça, donc les religieux sont pieds nus. Les deux prêtres tenant la croix par les bras, tournés vers le peuple, chantent: Mon peuple, que ce sont les lamentations de Jérémie. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Je t'ai retiré de la terre d'Égypte et toi tu as préparé une croix à ton sauveur. Et alors devant le sanctuaire, il y a deux diacres face à la croix et qui répondent en grec: Dieu saint, saint fort, saint et immortel, ayez pitié de nous. Et à chaque acclamation, ils fléchissent les genoux et ensuite le cœur, vous répond, tout le monde répond en latin: Dieu saint, saint fort, saint immortel, ayez pitié de nous. Donc il y a à la fois le grec et le latin pour montrer, eh bien c'est l'Orient et l'Occident qui sont unis, les deux églises. L'Orient catholique, je parle bien sûr, et l'Occident. Les deux prêtres tenant la croix s'éloignent un peu donc ils se rapprochent du milieu de l'autel en tenant la croix, toujours voilée. Les deux prêtres tenant la croix s'éloignent un peu du côté de l'épître vers le milieu de l'autel et chantent. Toujours pareil, des reproches du Seigneur Jésus. Seigneur qui dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait pour vous me crucifier? Regardez tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà. Parce que je t'ai conduit pendant 40 ans à travers le désert, que je t'ai nourri de la manne et introduit dans une terre excellente, tu as préparé la croix à ton sauveur. Et les diacres, fléchissant les genoux, reprennent en grec, Dieu saint, saint fort, et on reprend le cœur qui reprend les acclamations en latin. Et puis les deux prêtres, tenant la croix, viennent au milieu de l'autel, en descendent les degrés. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est le prêtre officiant qui se place au milieu de l'autel, sur un degré un peu élevé, entre les deux prêtres qui tiennent la croix. Il reçoit la croix voilée, il va la découvrir, et il va la montrer à toute l'assemblée, à tous les fidèles, en chantant: Voici le bois de la croix sur lequel le salut du monde a été suspendu. Venez, adorons-le. Et puis tout le monde s'incline profondément pour adorer la croix. Ensuite, eh bien, bon, c'est une cérémonie qui n'existe que dans des couvents, évidemment. Les paroisses ne pourraient pas faire, ce serait impossible. Voilà. Donc les deux prêtres prennent alors la croix et la déposent sur un coussin devant les degrés de l'autel. Ils s'étendent de tout leur long sur le côté et tiennent d'une main la croix. Alors commence l'adoration solennelle. Le prêtre officiant, ses ministres, les prêtres, les diacres qui ont chanté les versets. Tous les religieux, par ordre de dignité, pieds nus, viennent tour à tour, sur un espace assez étendu, faire successivement trois agenouillements, et ensuite, dernière prostration, et baisent, en s'étendant de leur nom, et ils baisent les pieds du crucifix. Et ensuite, eh bien, la croix est présentée et portée vers la table de communion, et ce sont les fidèles qui viennent aussi baiser la croix. Voilà, des fois des gens savent pas trop. Bon, on baisse les pieds. Bon, enfin, si vous voulez baiser le cœur de Jésus, vous pouvez. Enfin, on baisse le crucifix, on baisse notre Seigneur. Voilà. Pas le bois de la croix, hein, on baisse notre Seigneur. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, eh bien, après l'adoration par les fidèles, eh bien, et pendant lequel, eh bien, on chante un hymne à la croix, voilà. Eh bien, les deux. Le célébrant reprend la croix et tourné vers les fidèles, il chante ceci: Au-dessus de tous les bois de cèdre, tu es la plus élevée, toi, la croix, toi sur laquelle la vie du monde fut suspendue, toi sur laquelle le Christ a triomphé, toi sur laquelle la mort a dompté la mort pour toujours. Un cri de victoire, voilà. Il faut penser d'ailleurs que pendant sa vie cachée à Nazareth, et travaillant eh bien avec Saint Joseph, charpentier, eh bien le bois sur lequel travaillait Saint Joseph pour faire des poutres, eh bien c'est le même bois, la même espèce de bois de chêne sur lequel notre Seigneur a été crucifié. Donc vous pensez que pendant ces années où il aidait Saint Joseph, eh bien il travaillait sur ce bois, il pensait tout le temps au bois de la croix sur lequel il serait cloué. Et puis ensuite a lieu la communion. Alors pour la communion, ce sont des le prêtre a des ornements violets. Pendant des siècles, pendant les premiers temps de l'Église et pendant des siècles, on a communié le Vendredi Saint aussi. Bon, plus récemment, enfin en tout cas, ah oui, ben, c'est-à-dire avec la réforme de Pie XII a réintroduit cette communion du Vendredi Saint, parce que jusqu'à pendant un certain temps, on ne communiait plus le Vendredi Saint en disant la raison c'était, voilà, ben, on est privé de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il est mort, donc on ne le reçoit même pas, etc. Bon, ben, c'est des choses différentes, ça. En tout cas, ça n'engage pas la foi. Et donc Pie XII a rétabli la communion, voilà. Comme ça, nous pouvons communier tous les jours. C'est très bien. Et en même temps, il faut bien penser d'ailleurs que communier, c'est recevoir. Il n'y a pas de messe ce jour-là. Il n'y a pas de messe le Vendredi Saint, il n'y a pas de consécration. Le Saint-Sacrement, hier soir, a été porté dans le chapitre, dans une salle du couvent, et il sera reporté pour la communion. Mais il n'y a pas de messe le Vendredi Saint, parce que c'est que voilà, l'Église, au jour où elle commémore la mort de notre Seigneur. On revit, si vous voulez, les derniers instants dernières heures de la vie de notre Seigneur sur terre, avec son corps non glorifié, voilà. Donc hier soir, le Jeudi Saint, bah, c'était la Sainte Cène, donc voilà, l'institution de la Sainte Eucharistie, donc la messe, et puis Vendredi Saint, notre Seigneur, il a célébré la messe d'une autre façon, d'une autre manière, bien sûr, c'était la messe, puisque la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, mais d'une autre manière, voilà, d'une autre manière. Là, c'est le sacrifice de la croix, Vendredi Saint, et puis la messe et le renouvellement du sacrifice de la croix, ben, on ne renouvelle pas le Vendredi Saint. Vous voyez, bon, très bien. Mais il faut bien penser d'ailleurs que lorsque nous communions, puisque notre Seigneur, eh bien, dans l'hostie, il est dans les mêmes dispositions d'âme qu'il avait au calvaire. Et pas seulement le Vendredi Saint, dans toutes nos communions. Donc notre Seigneur vient en nous par la Sainte Communion pour nous entraîner dans ses dispositions. Donc, si vous voulez, finalement, c'est pas plus mal, hein, en communiant le Vendredi Saint, reprenant cette coutume qui a duré pendant des siècles, le pape Pie XII a repris cette coutume, eh bien, ça nous permet encore de mieux nous unir aux dispositions de notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous unit à lui, qui nous unit à ses dispositions, qui nous les donne à la communion. Et d'ailleurs, quand nous communions, il faut toujours penser à ça, nous communions à une victime qui s'est offerte. Et pour unir, eh bien, tous les sacrifices et toutes les épreuves de notre vie à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'elle devienne méritoire et qu'elle nous obtienne la gloire. Il n'y a pas de proportion, comme le dit saint Paul, entre la gloire et le bonheur que nous aurons dans l'éternité avec les épreuves que nous avons ici-bas. C'est rien par rapport au bonheur propre. Il n'y a pas de proportion, tellement c'est grand. Voilà. Donc, on va rapporter le Saint-Sacrement depuis l'intérieur du couvent pour la communion, et ensuite on le rapporte. Voilà, c'est ça. Et bon, si vous avez le temps, ensuite nous terminons par le chant des complices. Voilà. Alors, je voudrais, après avoir cette présentation des cérémonie de ce soir, donc quatre parties: les lectures qui culminent avec le récit de la Passion, ensuite les oraisons solennelles, voilà, on en profite pour demander tout ce qu'on peut à notre Seigneur pour aujourd'hui, voilà, ensuite l'adoration de la croix, voilà, pensant que la croix c'est notre vocation à tout, c'est la vocation du chrétien, la croix, et que la croix c'est la gloire du chrétien parce que c'est le prix de sa gloire, voilà. Donc en embrassant la croix, c'est à la fois pour vénérer cette croix sur laquelle notre Seigneur a obtenu notre salut, mais c'est en même temps pour l'embrasser pour nous, accepter toutes les sacrifices des devoirs quotidiens dont parle notre âme de Fatima, voilà, et puis aussi ben, les croix, les épreuves, les contrariétés, les difficultés de notre vie, et bien tout ça, c'est chacun a sa voie vers le ciel. Chacun les croix, elles sont taillées à notre mesure, avec toutes les grâces dont nous sommes prévues, dont nous avons besoin pour porter ces croix de notre vie. Voilà. Alors, il ne faut pas dire, oh, ben, je préfère en avoir d'autres, ou je préfère les autres, ils sont plus heureux que moi. Chacun a ses croix. Ses croix, voilà. Donc, portons la nôtre, c'est notre. Et que c'est le prix de notre gloire. Là, voilà. Alors, je dis quelques réflexions de saint Thomas d'Aquin sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, faire un petit peu de doctrine. Voilà, donc, dans la somme de saint Thomas, il y a plusieurs parties, plusieurs volumes. Ici, c'est une édition latin-français avec des commentaires, voilà, en français. Et il y a plusieurs volumes sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, le tome 3, c'est tout sur la passion. C'est merveilleux. Vous allez voir, c'est très accessible. Hein, c'est bon, voilà. Alors d'abord, parce qu'on peut se poser, faut se poser des questions maintenant par rapport à la passion de notre Seigneur. D'abord, saint Thomas se demande si la passion de notre Seigneur était nécessaire d'une nécessité absolue. C'est absolument nécessaire que nous soyons sauvés par ce moyen. Eh bien non, ce n'était pas d'une nécessité absolue, ni de la part du bon Dieu, parce que le bon Dieu étant le juge suprême, il aurait pu faire une amnistie générale. Un juge, il a tous les pouvoirs, il dit bon, allez hop, on tourne la page et puis c'est fini, on n'y pense plus. Voilà, bon. Il aurait très bien pu faire ça, mais ça, c'est pas ce qu'il a fait, bien sûr. Et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il n'était pas, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui lui a été imposé comme contre sa volonté, et il s'est offert volontairement. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est devenue nécessaire, était nécessaire, non pas de manière absolue, mais nécessaire parce que, à partir du moment où le bon Dieu avait décidé cela pour notre rachat. Et alors c'est une décision la décision du bon Dieu, c'est pas un jour après le péché d'Adam, voilà, la Sainte Trinité qui se réunit, qu'allons-nous faire? Voilà. Et non, c'est de toute éternité cette décision a été prise. Il faut penser, hein, quand la création du monde et le bon Dieu n'avait pas besoin de nous pour être heureux. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont heureuses de toute éternité, n'ont absolument pas besoin de nous, voilà. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a voulu créer des êtres pour leur faire participer à ce bonheur. Et en même temps, pour que nous participions à ce bonheur de la Sainte Trinité, eh bien, le bon Dieu même a élevé notre nature au-dessus de la nature humaine par la grâce sanctifiante. Et donc, cette vocation qui est la nôtre, c'est absolument quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Nous élever au-dessus de notre nature humaine pour nous faire participer à son bonheur divin. Si grand qu'on ne peut même pas l'imaginer, dit saint Paul. Bon. Mais c'est par amour que le bon Dieu a voulu ça. Donc, puisque c'est un plan d'amour, il est normal, le bon Dieu attend, le bon Dieu attend une réponse d'amour de sa créature. Une réponse d'amour libre de sa créature. Quand on aime quelqu'un, si on veut avoir une vie d'amour avec quelqu'un, bah, il faut que ce soit réciproque. Si c'est pas réciproque, bah, ça va pas. Il faut que ce soit réciproque. Donc pour nous, c'est pareil. Et donc, à cause de cela, eh ben, le bon Dieu a créé l'homme libre. Il a créé par amour pour nous faire participer à son bonheur, mais il faut que nous donnions une réponse libre. Et dans la mesure où il y a une réponse libre, eh bien forcément, il y aura des gens qui ne répondraient pas, qui répondraient non et qui se révolteraient. Voilà, bon. Donc c'est le bon Dieu a pris le risque, si l'on peut dire, du péché dans son plan d'amour. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc il y aurait le péché. Et comme il y aura le péché, puisqu'il le sait de toute éternité en plus, parce qu'il domine tous les temps, bien entendu, comme il y a le péché, ben, il faut penser à la réparation du péché. Donc, de toute éternité, a été décidée notre création et notre rédemption. Et une réparation d'amour encore. C'est pas, vous allez payer. L'amour, oh là là, c'est trop pour eux. C'est trop pour eux. Donc, c'est le bon Dieu qui dit, c'est moi qui vais réparer. Ah oui, son fils, non, son fils, c'est lui qui répare. C'est nous qui avons, qui péchons, et c'est lui qui répare, qui pourrait à notre place. Non, non, vous n'êtes pas capable, c'est moi qui prends tout. Parmi les hommes, même, on ne verra jamais quelque chose comme ça. Impossible. On a offensé quelqu'un de très important, je sais pas, on l'a ruiné, etc. et tout, et puis il dit, bon, bah écoutez, c'est mon fils qui va réparer tout ça. Bon, et puis tous les péchés que nous faisons, c'est bien plus grave que tout ce que nous pouvons, ce que les hommes peuvent se faire entre eux, voilà, bon. Donc, si vous voulez, eh bien, voilà. Donc, à partir du moment où le bon Dieu a eu un tel plan de rachat, eh bien, dans ce cas-là, à partir du moment, il était nécessaire que notre Seigneur vienne, voilà, parce que c'était le plan de Dieu, à ce moment-là. Mais d'une manière absolue, il aurait pu tout à fait prendre d'autres choses. Et alors, saint Thomas d'Aquin dit que, justement, quelle est la beauté et la grandeur de ce plan d'amour? Eh bien, la passion de notre Seigneur, la façon dont nous avons été rachetés, c'est à la fois un mystère de justice et un mystère de miséricorde. Un mystère de justice vis-à-vis de Dieu, parce que dans tout péché grave, tout péché mortel, il y a une sorte d'infinité, puisque c'est le Dieu infini que nous offensons. Voilà. Donc, pour réparer, eh bien, il faut une réparation qui a une valeur infinie, ce qui est impossible pour les hommes à accomplir. Voilà. Donc, notre Seigneur, prenant notre nature humaine, étant homme, il répare au nom des hommes, et étant Dieu, eh bien, ses actions ont une valeur infinie, donc il répare infiniment les péchés commis par les hommes. D'ailleurs, si vous voulez, il faut penser, quand on voit à tous les péchés de notre époque, hein, et puis alors on en voit de plus en plus, voilà, c'est ça. Bon, l'apostasie générale, récemment en France, l'avortement dans la Constitution, la situation actuelle de l'Église, les bénédictions données à n'importe qui, etc. et tout. Ah, c'est effrayant de plus en plus, on dit jusqu'où ça ira, voilà, bon, eh bien. Et se dire, en même temps, il faut se dire, mais tout a été réparé déjà. Tout a été réparé. Le bon Dieu a été glorifié par la passion de notre Seigneur. Tout a été réparé. Et quand le prêtre quitte l'autel après avoir célébré la messe, eh bien, on dit, voilà, la réparation que notre Seigneur a opérée il y a 2000 ans, elle vient d'être appliquée aujourd'hui, pour les péchés d'aujourd'hui. C'est beau. Donc, mystère de justice, réparation parfaite, infinie. Et mystère de miséricorde, évidemment, puisque c'est réparé à notre place. Alors, bien sûr, il est normal que nous ayons un petit peu notre part aussi, voilà. Mais il faut se dire que c'est rien par rapport à ce que nous devrions souffrir à cause de nos péchés, voilà. En même temps, si vous voulez, eh bien, ces mystères de justice et de miséricorde, et qui doivent nous faire en même temps comprendre non seulement l'amour de notre Seigneur pour nous, mais aussi la gravité du péché, parce que s'il a fallu tant souffrir pour réparer le péché, c'est que le péché, ce n'est pas rien en même temps. Ça nous aide à comprendre la gravité. Si le bon Dieu avait dit, bon, allez, on tourne la page, bon, bah, on tourne la page. Même vis-à-vis des enfants, mais dans l'éducation, le bon Dieu est un bon père, il nous éduque. Si à chaque fois que les enfants font une bêtise, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oui, il leur fera le lendemain, mais il leur fera encore plus, voilà. Oui, mais papa, chaque fois il tourne la page, c'est très bien. Non, ça nous aide à comprendre, disant zut, non, ça va pas, on doit méditer la gravité. Parce que à la fois, le péché offense le bon Dieu, et le péché nous fait du mal. Le péché, c'est notre mal. C'est notre mal. On se détruit. Enfin, surtout les péchés graves, les péchés mortels. On se détruit. Nous faisons du mal. Nous ne sommes pas raisonnables. Pas raisonnables. Nous sommes aveuglés par nos passions, évidemment. Alors, on ne se rend pas compte sur le moment, mais après, il faut réfléchir. On se détruit. D'ailleurs, le monde aujourd'hui qui s'est éloigné de notre Seigneur, il se détruit. On le voit bien. Les gens sont heureux aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de suicides dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Il n'y a plus de famille. Tout éclate. C'est à pleurer, hein. Ben voilà. Bon. Donc, mystère de justice et mystère de miséricorde infini. Alors ensuite, eh bien, Oui, voilà, saint Thomas d'Aquin se demande si s'il n'y aurait pas eu quelque chose encore de mieux pour nous racheter. Bon, évidemment, on sait non, parce que le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais enfin, bien sûr, saint Thomas en est persuadé. Mais enfin, il veut nous montrer en quoi c'est mieux. Il pose la question, mais pour nous montrer en quoi c'est mieux, ce dont, bien sûr, il est persuadé. Voilà. Les avantages. Là, je vous lis, vous voyez, il y a des passages de saint Thomas qui sont très accessibles. Par la passion du Christ, premièrement, l'homme a connu combien Dieu l'aimait, et il fut ainsi provoqué à aimer Dieu en retour. Comment ne pourrions-nous ne pas aimer un Dieu qui fait de telles choses pour nous? C'est en cela que réside la perfection du salut de l'âme, de l'homme. Ben, c'est ça qu'il attend, il a attendu en nous créant, et bien c'est que nous l'aimions. Ensuite, deuxièmement, par la passion, le Christ nous a donné de nombreux exemples de vertu, l'obéissance, hein, l'obéissance à son Père, voilà, jusqu'à la mort de la croix. L'humilité, il n'y a pas de plus grande humiliation. Voilà, tout ce qu'il a subi déjà pendant la Passion, et puis le fait d'être crucifié entre deux voleurs, comme un voleur, à l'entrée de la ville, comme tout le monde le voyait. Voilà. Humilité, de constance, il a persévéré jusqu'au bout, il a porté sa croix, il est tombé sur le chemin du calvaire, mais il a été jusqu'au bout. Les vertus de justice, évidemment, voulu pour réparer la gloire de son Père. Troisièmement, le Christ, par sa passion, a non seulement libéré l'homme du péché, mais il lui a en outre mérité la grâce de la justification, c'est-à-dire la grâce du pardon. Il a mérité que nous revenions en grâce. Et puis, quand nous allons nous confesser, il faut penser, tous les sacrements tirent leur efficacité de la passion de notre Seigneur. C'est pas seulement la messe, hein. Quand nous allons nous confesser, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coule mystérieusement sur notre âme. Mais c'est encore son sang. Il a mérité le pardon que nous recevons à l'absolution, il a mérité la destruction de nos péchés à l'absolution, et bien par le vendredi saint en versant son sang. Voilà. Donc voilà. Il a mérité la grâce du pardon, voilà, que nous recevons à chaque fois que nous allons nous confesser. Et en même temps, il a mérité aussi notre gloire. Parce que le ciel nous était fermé. Les portes sont grandes ouvertes maintenant. Quatrièmement, le sang, évidemment, l'homme se sent également poussé à se garder pur de tout péché, enfin au moins de combattre. À combattre, en disant, c'est pas possible, faut vraiment que je change. Voilà. Comme le dit saint Paul aux Corinthiens, vous avez été achetés assez cher, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà, donc différentes. Ah oui, aussi, encore une. L'homme a atteint par la passion de notre Seigneur, l'homme lui-même a atteint une plus haute dignité. Parce que il y a un Dieu qui est venu mourir pour nous. Oh là là, on vaut cher. Oui. C'est pas pour se dire que je vaut cher, mais on vaut tous cher. Voilà, les âmes. C'est pour ça que nous avons tous les hommes sur cette terre. Il y en a qui malheureusement n'en profiteront pas par leur faute. Mais tous les hommes sur cette terre, eh bien. Ils ont coûté cher à notre Seigneur Jésus-Christ. Incroyable que ce soit vraiment, il ait fallu la mort d'un Dieu que. On ne doit pas s'enorgueillir, hein, parce que c'est à cause de nos péchés, de toute façon, alors on ne peut pas s'enorgueillir. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Alors ensuite. Est-ce que notre Seigneur. Voilà, comme ça, on sautait. Voilà, dans sa passion, est-ce que notre Seigneur a enduré toutes les souffrances? Toutes les souffrances. Voilà. Alors évidemment, bon, on peut dire, oh ben non, il n'a pas enduré tous les genres de morts. Il y en a tout ça. On peut mourir par le feu, on peut mourir par l'eau en se noyant, on peut mourir je sais pas, en recevant un rocher sur la tête, etc. Ben non, évidemment, non, il n'a pas, ça servait à rien qu'il endure tous les morts, genres de morts possibles. Et puis, et puis bon, et puis il y a le cancer, etc. Alors à ce propos-là, d'ailleurs, notre Seigneur n'a jamais été malade et ne pouvait pas être malade, ne pouvait pas. Ça a été contraire à sa dignité. Son corps fait par le Saint-Esprit était parfait, impossible de tomber malade. C'est pour savoir ça aussi. Ça n'aurait pas du tout convenu qu'un corps fait par le Saint-Esprit puisse se dégrader. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort à l'âge de 33 ans, et pas un vieillard, etc. et tout. Ça ne convenait pas que le corps ne... De toute façon, ça ne serait jamais dégradé, il serait jamais... Mais enfin, non, ça convenait pas à lui. Voilà, ça lui convenait pas. Voilà, il n'a pas enduré toutes les espèces particulières de souffrance, mais dans ces souffrances, toutes les souffrances des hommes sont contenues. Voilà. Toutes les souffrances, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important à comprendre parce que, eh bien, enfin, on le verra encore après l'article suivant, c'est que toute personne quelles que soient ses souffrances, peut se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ en disant, lui, il a encore davantage souffert que moi. Donc il peut me comprendre. Des fois, il y a des souffrances qui sont telles, par exemple dans les cancers des os, etc. Et tout. On dit, oh oui, mais de toute façon, des gens viennent encourager, oh oui, vous pouvez pas comprendre. Oui, ah oui, peut-être, bien sûr. Toute la nuit, je dors plus, etc. Et tout. On est un peu effrayé, on imagine, désolé, voilà. Mais lui, il comprend parce qu'il a connu tout ça, il a connu plus. Voilà. Parce qu'il faut penser aussi que pendant sa passion, notre Seigneur aurait dû mourir le jeudi saint au soir, parce qu'une sueur de sang, c'est rarissime, mais les médecins disent que c'est possible, et quelqu'un qui aurait une sueur de sang, eh bien après, il faudrait qu'il aille en réanimation pendant un long jour. Donc il aurait très bien pu mourir le jeudi saint au soir. Mais alors, il attendait toutes sortes d'outrages après, tous les outrages qu'il a eus après, et puis toute une nuit sans dormir, et puis toute la passion, le chemin de croix, enfin la flagellation, le couronnement d'épines, le chemin de croix, etc. Tout, c'est impossible humainement. Bien dire humainement, c'est impossible. La flagellation, il aurait dû mourir. Surtout les bourreaux, il y avait le démon enfin tenait celui qu'il voulait tenir depuis tant de temps. Il n'avait jamais vu un tel saint. Le démon est rentré dans le cœur des bourreaux pour qu'ils frappent avec une sauvagerie qu'ils n'avaient jamais eue. Il aurait dû mourir. Voilà. Et puis sur le chemin de croix. D'ailleurs, même les soldats ont eu peur qu'il meure, puisqu'ils ont réquisitionné Simon de Cyrène. Voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il était Dieu, donc il souffrait pas. Non, non, attention. La divinité de notre Seigneur permettait qu'il ne meure pas, mais ne diminuait pas les souffrances. Ce qui fait que notre Seigneur a exploré des régions de la souffrance impossibles à explorer par les hommes. Donc, tout ce que peuvent souffrir les hommes, même de pire, ce ne sera jamais ce que notre Seigneur a souffert. Donc il comprendra toujours, et on pourra toujours se tourner vers lui. Alors, en même temps, même sur le plan moral, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral. Voilà, saint Thomas dit, le Christ a enduré, voilà, a souffert de la part des hommes. Il a souffert de la part des Romains. Et il a souffert de la part des Juifs, donc les Juifs et les Juifs et les païens. Il a souffert aussi de la part des hommes et des femmes, parce qu'il y avait sur des hommes et des femmes sur le calvaire qui se moquaient de lui, qui l'insultaient. Il a souffert de la part des princes, Hérode et Pilate, et de la part de leurs ministres. Il a souffert de la part du peuple. Il a aussi été affligé de la part, il a souffert de la part de ses amis, puisque Judas l'a trahi, Saint-Pierre l'a renié, et les autres se sont enfuis. Où sont-ils? 3 ans avec eux, etc. Je leur ai annoncé ma passion à certains sur le mont Tabor, je leur ai montré ma gloire, etc. Et tout. Où est-ce qu'ils sont passés? Je suis tout seul. Même la Sainte Vierge, on a dit aussi, la Sainte Vierge, elle aurait été plus encouragée de monter au calvaire, entourée par les 12 apôtres, là, on monte tous pour le soutenir, le Seigneur, là, on est après lui, et ils sont tous partis. Il y avait Saint Jean, mais c'est plutôt elle qui l'a tiré. Donc il a souffert de la part de tous les hommes, mais même ses plus intimes. Il a souffert aussi tout ce en quoi un homme peut souffrir. Il a souffert dans ses amis qui l'ont abandonné, dans sa réputation par les blasphèmes qui furent proférés contre lui, dans son honneur et dans sa gloire par les moqueries et les affronts qu'il dut supporter, dans ses biens lorsqu'il a été dépouillé de ses vêtements, c'est les seuls biens qu'il avait, dans son âme par la tristesse, la fatigue et la crainte, dans son corps par les blessures et les coups. Il a souffert aussi dans tous les membres de son corps. À la tête, les blessures de la couronne d'épines, aux mains et aux pieds, le percement des clous, au visage, les soufflets, les crachats, et sur tout le corps, les coups de la flagellation. On le voit sur le Saint-Suaire. Il avait prédit le prophète Isaïe, de la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a plus rien de saint en lui. Il a souffert dans tous ses sens corporels, dans le toucher quand il a été flagellé et cloué à la croix, dans le goût lorsqu'on lui a présenté du fiel et du vinaigre, Dans son odorat, lorsqu'il a été suspendu au gibet en un lieu rendu fétide par les cadavres des suppliciés, le calvaire, c'était épouvantable parce que il pourrissait. C'est la barbarie des Romains. Dans son ouïe, enfin ses oreilles, lorsque ses oreilles furent déchirées par les blasphèmes et les moqueries. Enfin, dans sa vue, quand il vit sa mère et le disciple aimé au pied de la croix qui pleurait. Ensuite, est-ce que sa douleur a été plus grande que toutes les autres douleurs? Voilà. Il y a toutes les douleurs qu'il a endurées, tous les genres de douleurs. Voilà. Alors là, oui, donc Saint Thomas dit, donc par rapport aux causes de la douleur sensible fut produite par une lésion corporelle, et elle atteignit encore, même au Moyen Âge, on s'en est bien compte. Aujourd'hui, il y a les chirurgiens de ça qui expliquent tout ça, mais de tout temps, on savait très bien. C'est la mort la plus terrible, la crucifixion. Les apôtres enfin les évangélistes sont très sobres mais ils sont très sobres parce que c'est pas la peine de s'étendre. À l'époque, tout le monde savait, parce que quand on allait dans une ville, il y avait toujours des crucifiés. Tout le monde avait vu des crucifiés, mes enfants. C'était à la porte des villes, il y avait des crucifiés. C'était comme voilà, des époques barbares. Enfin, aujourd'hui, c'est pas ça, mais enfin, on tue les enfants dans le ventre de leur mère, c'est tout ça. Et puis bien, donc c'est plus discret, mais c'est tout aussi barbare. Hein. Donc la douleur sensible atteint son paroxysme. Car la mort des crucifiés est la plus cruelle. Ils sont en effet attachés par des parties nerveuses et extrêmement sensibles, les mains et les pieds. De plus, le poids du corps qui pend augmente continuellement cette douleur. Et à tout ceci s'ajoute la longue durée du supplice, car les crucifiés ne meurent pas immédiatement comme ceux qui périssent par le glaive. Quant à la douleur intérieure du Christ, alors aussi il faut bien penser, parce que la passion c'est terrible sur le plan extérieur, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le plus important, c'est la douleur intérieure de notre Seigneur. Bon, il y a eu, je dis pas que j'y ai pas été, mais enfin, il y a eu le film Mel Gibson d'avant. D'accord. Mais ça ne montre pas le plus important, en fait, parce que le plus important, c'est la douleur intérieure. Et ça ne peut pas se montrer, évidemment. Bon. Douleur intérieure, elle avait plusieurs causes. En premier lieu, tous les péchés du genre humain pour lesquels notre Seigneur réparait en souffrant. Voilà. Et il voyait à la fois lui qui est Dieu, il voyait l'offense infinie causée à Dieu, et puis il voyait le mal causé aux âmes par leurs péchés, et puis l'enfer, ceux qui tomberont en enfer. Ensuite, l'intensité de la douleur se mesure à la sensibilité de celui qui souffre dans son âme et dans son corps. Or, le corps du Christ était d'une constitution absolument parfaite, puisqu'il avait été formé miraculeusement par l'Esprit Saint. Rien n'est plus parfait que ce qui est produit par miracle. Avec le même supplice, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ forcément souffrait encore plus pour les mêmes supplices objectifs que n'importe quel homme peut souffrir à cause de son corps qui avait été formé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que dans le Christ, le sens du toucher qui sert à percevoir la douleur était extrêmement délicat. Et puis son âme aussi saisissait avec la plus grande acuité dans ses puissances intérieures toutes les causes de tristesse. L'intensité de la douleur du Christ peut aussi se prendre de la pureté de sa douleur. Dans les autres êtres qui souffrent, la tristesse intérieure et même la douleur extérieure sont tempérées par la raison. Et puis des fois aussi, on a un peu quelques distractions pour changer un peu les idées. Voilà. Or, dans le Christ souffrant, cela ne s'est pas produit. C'était la douleur totale et la... Tout en sachant que c'est quelque chose de mystère, c'est un mystère de foi, et puis c'est en même temps un miracle, que faut bien penser aussi que pendant toute sa passion, notre Seigneur avait la vision béatifique, il voyait son Père face à face, ce qui inondait de bonheur la partie la plus supérieure de son âme, mais en même temps la partie inférieure de son âme, il y avait une cloison totalement étanche, miraculeuse, c'est-à-dire le bonheur de la partie supérieure de son âme ne diminuait pas la souffrance de la partie inférieure, et la souffrance de la partie inférieure ne diminuait pas le bonheur de la partie supérieure. Voilà, donc, il faut bien penser à cela. Donc ça a été une douleur totale. Et en même temps, si vous voulez, bien sûr, Voilà, l'intensité de la douleur du Christ a une dernière cause. Cette passion et la douleur qui en résulta ont été choisies volontairement par le Christ pour libérer l'homme du péché et par amour pour son Père. Aussi la douleur a pris une proportion dans son intensité, eh bien, elle était proportionnelle justement à l'amour de notre Seigneur pour son Père et pour nous, à sa volonté de se donner. Il est rentré lui-même totalement dans la douleur le plus possible. Nous, on essaye de la combattre un peu, enfin, voilà. Il y est rentré totalement le plus possible, par amour pour son Père et pour sauver le plus d'hommes possible, enfin, pour tous les péchés possibles, voilà. Pour que personne ne puisse dire, j'ai trop péché, je ne pourrai jamais être pardonné, c'est impossible. Non, non, il a été jusqu'au bout de ce que... Il a réparé surabondamment. Donc, si vous voulez, ça a augmenté encore toutes les douleurs dont nous venons parler, ont été augmentées par le fait qu'il y est rentré totalement, il y a plongé le plus possible. Voilà, enfin, le résultat de la passion de notre Seigneur, eh bien, bon, je dis juste les titres des articles de saint Thomas, parce que, voilà. Par la passion du Christ, nous avons été délivrés du péché. Alors, délivrés du péché, bah, ça dit, bah oui, mais alors, j'ai 12 heures des tentations, et puis ça m'arrive encore de pécher, et puis, oui, bah oui, mais c'est par... Par les confessions et les communions, petit à petit, on arrive, et puis le péché est détruit, de toute façon, le garde-fort. C'est ce qui nous sépare des protestants. Les protestants, non, ils n'ont que le baptême. Bon. Et ben voilà, ils ne profitent pas de la passion de notre Seigneur, parce que ils restent toute leur vie avec leurs péchés qui s'accumulent de plus en plus toute leur vie. C'est pour ça que le protestantisme est si triste. Tandis que nous, notre âme est libérée. C'est la liberté des enfants de Dieu. Bon, délivré du péché, bah oui, c'est à la confession, parce que là, ah, on s'approche, on reçoit le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça y est, on est délivré. Tout le monde, quel qu'il soit. Par la passion du Christ, nous avons délivré du pouvoir du démon. Le démon maintenant, c'est un monstre, mais un monstre enchaîné. Voilà, donc, eh ben, ne nous approchons pas de lui. Bon, il est peut-être facile à dire. Hein. Bon, enfin, essayons, ne nous approchons pas de lui. Il fait tout pour essayer de nous attirer. Viens un peu plus près, etc. Et tout, nous séduit, il aveugle, etc. Puis clac, dès qu'on est assez près, toc, ça y est, le péché. Puis après, ça l'amuse évidemment. Et puis nous, on est dans le malheur. Voilà. Il donne la tentation d'un plaisir, et puis voilà, et puis une fois qu'elle est tombée, il sortit, et voilà. Et ça l'amuse. Voilà. Et ça, petit à petit, il veut nous entraîner avec lui en enfer. Il veut détruire le plan de notre Seigneur. Heureusement, notre Seigneur a toujours moyen, avec lui, a toujours moyen de détruire le péché dans notre âme. Donc, par la passion, les hommes ont-ils été libérés de la peine du péché? Ben, évidemment, enfin, de tout ce que nous devrions souffrir pour nos péchés, il l'a fait. En toute justice, il nous reste un petit peu quand même, voilà, bien sûr, c'est normal. C'est normal, et si vous voulez même, enfin, c'est des gens qui viennent de très loin, bah, ils demandent à faire pénitence, voilà. On doit avoir envie aussi de réparer un peu avec notre Seigneur, voilà. Par la passion, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par la passion, la porte du ciel nous a été rouverte. Et par la passion, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, a mérité d'être exalté dans la gloire, une gloire qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Plus il est descendu, plus maintenant il est exalté. Très bien. Alors, il y a quelques... Si ça vous intéresse, j'espère qu'il y a assez. Enfin, j'ai ici des litanies de la passion, c'est très beau, s'il y en a qui n'ont pas. Voilà, donc vous pouvez prendre. Et puis alors, un bon moyen aussi, une belle dévotion par rapport à la passion, c'est la dévotion du chemin de la croix. On peut faire un chemin de croix. Alors, si on peut pas faire, on peut pas toujours faire dans une église, on peut faire un chemin de croix chez soi. On se lève, on se remet à genoux, on se lève, etc. Entre chaque station, voilà. Et c'est une le chemin de la croix, vraiment, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de grâce pour regretter nos péchés, pour les combattre et pour aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, notre Seigneur a fait connaître à un saint religieux des frères des écoles chrétiennes dans les années 1920, eh bien, un certain nombre de promesses faites aux personnes qui font le chemin de la croix. Donc, les promesses de notre Seigneur, il y a 14 promesses. Voilà, disons, des bénédictions tout à fait, des grâces tout à fait spéciales qu'on reçoit. Donc, il y a ceci, vous pouvez prendre aussi, hein, ces deux papiers.